Cohn par Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Bonjour Jean-Louis Aubert, bonjour Monsieur le Président.
Bonjour. Oh non, non, pitié.
Ah ben, président d'un soir.
Même pas.
Même pas ? Si ?
Non, je vais discuter cette dénomination, je pense.
Il y a président, vous voulez la
changer ? Il y a président, honneur et victoire. Ça fait trois mots à discuter déjà, mais ils peuvent être intéressants d'ailleurs.
Quelles sont les icônes qui ont fait ce que vous êtes ? Je serais tenté de dire en tout premier les Beatles, qui ont été le premier élément musical déclencheur chez vous. C'est ça, avec ce Hard Day's Night ?
Ah ouais, ouais. Ma sœur écoutait ça dans sa chambre avec les... Enfin, c'était au grenier, elle était guide de France, et donc j'écoutais les Beatles, et j'écoutais à travers la porte. Et moi, quand j'étais au patronage, il y avait une affiche Magical Mystery Tour. C'était le film des Beatles, et j'étais petit, et je regardais ce bus couvert de fleurs, et je me disais, mais ça ressemble pas au voyage qu'on fait avec l'école. Et j'ai compris tout petit que c'était peut-être un voyage un petit peu cérébral, psychologique et peut-être psychédélique, mettons.
Mais tout petit, vous avez été attiré par la musique. Et puis il y avait une guitare, je crois, accrochée au mur, qui était une guitare qui était à votre père et qui est le jour où il l'a décrochée pour vous. Ça a été un moment important.
C'est peut-être lui mon icône aussi. Ouais. Parce que... Mon père adorait dessiner, donc il était sous-préfet, mais à l'école, on racontait l'histoire d'un sous-préfet au champ qui était, je sais pas, on aurait dit du Pagnol, qui rêvait sous un arbre, et mon père était un peu comme ça. Donc il faisait des dessins pour les invités, et il me disait, dis que c'est toi qui les as fait, parce que moi, j'ai pas trop droit de faire des dessins comme ça. Et quand on est arrivé à Paris, effectivement, je le voyais jouer en cachette de la guitare, et... il a accroché sa guitare dans ma chambre, peut-être s'il n'y avait pas la place ou ça faisait pas sérieux de l'accrocher ailleurs. Et donc c'est cette guitare-là que j'ai décrochée après le premier concert des Who que j'ai été voir en loose day, on dit, en cachette avec un copain. Enfin, comme il y avait marqué opéra sur le billet, mes parents étaient assez fiers que j'aille voir un opéra, mais ils n'avaient pas bien compris le truc. Le truc, c'était que les Who chantaient « I'm free » et c'était les seuls deux mots que je... comprenait en anglais, je suis libre, et voilà. Et c'était donc les posters des groupes ont remplacé les images de moto et de mobylette, parce qu'avant c'était la moto qui me représentait la liberté. Enfin, ça s'est transformé en une mobylette quand j'ai eu 14 ans, et c'est là que j'ai pris mon envol sur deux roues.
Et quand vous allez au lycée Pasteur et au lycée Carnot à Paris, vous rencontrez Louis Bertignac.
Ouais, je le rencontre à Carnot parce que j'étais viré de Pasteur. Enfin, pour deux raisons. Parce que alors c'était bien quand même parce qu'on avait un club de musique qui s'appelait le Jazz Club et qui était à côté d'un club d'électronique où les gars nous construisaient des amplis. Et c'était un lycée où il y avait, c'était pas mal parce que Levallois à cette époque-là, c'était il y a longtemps bien sûr, était une ville communiste et donc il y avait un mélange d'élèves assez intéressant. Et à toutes les récréations, bon, moi, j'étais, quand je suis arrivé à Paris pour des raisons disciplinaires, je me suis mis à pas très bien travailler. Et j'allais tout le temps jouer de la guitare aux interclasses et aux récréations. Et, il y avait un club de théâtre où il y avait toute la bande du Splendide. Alors, ils étaient tous là, donc c'était nos grands frères de classe. Ils étaient deux classes au-dessus. Donc, Gérard Jugnot était mon surveillant. ça payait vraiment. Bon, il y avait aussi François Hollande et Nicolas Sarkozy dans ce lycée, enfin, ou juste à côté. C'était très, très bizarre quand je regarde le passé comme ça. Parce que...
Ah oui, c'est incroyable.
Ah oui, c'est incroyable. Hein. Et donc, je jouais de la guitare là, et à la fin de l'année, on faisait un truc qui s'appelait le Pasteur Show, qui était un spectacle. Voilà, et donc, la première année... j'étais timide et en fait...
Oui, votre premier groupe s'appelait Masturbation.
Oui, il y a eu Masturbation, il y a eu un truc assez curieux. Et j'avais un copain qui s'appelait Max, qui jouait de la basse, et on s'appelait Arthur Maxanko. Et c'est marrant parce que mon fils s'appelle Arthur et moi on m'appelait Arthur dans la cour de l'école. Enfin je sais pas parce que ça faisait un nom de déconneur, je pense. J'étais très très indiscipliné.
On se rend compte que dans votre ville, et ce qui va arriver à Téléphone, ce sont une première rencontre avec Bertignac. Ensuite il y a eu Richard Colinka.
Oui, alors est-ce que Richard est arrivé à la même époque? Mais je me souviens de la rencontre avec Louis qui était impressionnante parce que j'étais... un guitariste à ses côtés du côté de Neuilly et Levallois, et lui était très coté dans le 17e, et j'avais un copain qui m'avait appris les premières notes de guitare qui s'appelait Jean-Marc, et on a traversé, je me souviens, la cour du lycée Carnot en diagonale, et il était au milieu, il a dit « Louis, je te présente Jean-Louis » et tout ça. Et à côté, il y avait un magasin de musique et on est allé directement à la place de la cantine dans ce magasin de musique. On s'est mis à jouer, à se montrer des choses. On a séché les cours l'après-midi. On est allé dans une chambre de bonne où j'habitais. Et on a joué jusqu'à 4h du matin avec Louis. Et c'était notre première rencontre. On a très peu parlé, on a fait que jouer et se montrer des choses qu'on croyait savoir.
Le 12 novembre 76 est une date... très importante.
Ben oui, c'est notre premier concert. Alors, on s'appelait pas Téléphone, mais
c'est au quand centre même américain.
Voilà, centre américain. On avait ce groupe, c'est Molina, et le bassiste était un peu en dépression, Daniel. Donc, Richard a dit, je peux pas annuler ce concert. C'est un peu le seul qu'on a dans l'année. Et donc, on a formé un groupe avec nos copains, donc il y avait Louis, et puis Louis a dit si j'amenais Corinne à la basse. Enfin, c'était pas vraiment le premier concert. Le premier concert était un peu dans un centre d'handicapés. J'avais un copain dans ma classe qui était handicapé et qui avait dit ce serait bien que vous veniez jouer dans mon centre. Et on avait une forêt de béquilles, ça fait la révolution dans ce centre de gens qui étaient handicapés. Ça, et je pense que c'est là qu'on a joué la première fois Métro c'est trop, ou Isiaphone, ou Ma guitare est une femme. Mais le centre américain était vraiment un concert important parce que ça a réuni plein de gens autour de nous. Enfin, on avait un réseau d'amis assez grand et on a été surpris de voir autant de monde. Mais il faut dire qu'on était on collait des affiches partout dans Paris et on a même réussi à passer à la télé. Parce qu'il y avait les élections américaines, on s'est servi du mot centre américain pour dire qu'il y avait une fête, un concert de rock pour fêter.
Alors, vous me disiez que votre père était effectivement l'icône peut-être la plus importante de votre vie, on y reviendra tout à l'heure. J'imagine que Mick Jagger aussi. Est-il exact qu'un jour vous enregistriez dans un studio à côté des Rolling Stones et que Mick Jagger vous ait dit attention, quand il y a une fille dans un groupe, ça pose des problèmes?
Ouais, je pense que tous les Stones nous l'ont dit. Le pianiste, Ian Stewart, qui se retient. Mais parce que... par exemple, j'ai revu l'histoire de Brian Jones, et voilà, on voit déjà avec Anita Pallenberg, qui était vraiment le grand amour de Brian Jones, enfin le seul, je pense, et qui est passé dans les bras de Keith Richards, qui reste, à mon avis, pour le peu que j'en ai vu sur ce côté-là, un gentleman. Hein, mais voilà, mais ça, je pense que ça a créé la chute de Brian Jones. La suite psychologique. Voilà, alors les Stones, voilà, oui, on avait l'impression que c'était un peu... les groupes réagissaient un peu comme les marins en mer, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué de traverser l'Atlantique avec une femme à bord et tout un équipage de garçons autour, quoi. Ouais. Peut-être.
Donc les Rolling Stones, on peut les qualifier d'icônes pour vous, j'imagine. Et quand vous avez fait
j'étais pas tellement Mick Jagger que ça. J'étais plus Jeff Beck, parce que j'étais plutôt un guitariste au départ et... J'étais un peu boutonneux comme Jeff Beck avec la même frange et c'était une de mes idoles. Voilà, mais enfin, c'est vrai que Mick Jagger, la première fois que j'ai rencontré dans ce studio, et il m'a ouvert grand les bras, il m'a dit « ma petite bombe humaine ». Et ça m'a fait... ça m'a fait extrêmement plaisir. J'en avais les larmes aux yeux.
Je veux vous parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants.
Et en 82, vous faites la première partie des Stones à Auteuil devant 80 000 personnes. C'est un des, j'imagine, des plus grands concerts de l'époque téléphone.
Ouais, c'était très impressionnant. Ils nous avaient invités parce qu'on ne se laissait pas convaincre facilement. On disait pourquoi on ferait encore une première partie. On en avait fait suffisamment, on était un petit peu orgueilleux. Et ils nous avaient invités à aller voir dans un petit club en Écosse pour nous convaincre. Et c'était... assez troublant ce petit voyage en Écosse pour être auprès d'eux, mais ils avaient trois groupes américains en première partie et on devait normalement, le groupe du pays devait passer avant tous ces trois groupes et nous on voulait passer juste avant les Rolling Stones, et c'était très important pour nous et je pense que l'équipe technique l'a mal pris et on a eu pas mal de problèmes techniques. Et un problème qui était un peu dû à nous, c'est qu'on n'avait pas bien vu la grandeur de la scène. Et à l'époque, nos guitares étaient reliées par des fils. Et donc, je n'arrivais pas à atteindre de micro pour dire bonjour aux 80 000 personnes. Donc, j'ai donné un coup d'épaule, j'ai tiré fort. Et mon ampli est tombé de sa chaise ou de sa caisse. Et Richard a essayé de le rattraper, mais il avait... balancer de l'eau en arrivant sur scène pour faire le malin, il s'est mis à glisser. Louis a essayé de le rattraper. Et c'était horrible parce qu'on s'est retrouvés les quatre fers en l'air, tous sur la scène, devant 80 000 personnes. Et c'était très français comme arrivée sur scène, je veux dire.
Parmi les icônes, je ne sais pas si on peut le qualifier de tel, mais qui vient de publier un livre qui s'appelle « Rappel, mémoire d'un manager », si je vous dis François Ravard.
Oui, c'est un personnage, une personne, un frère... extrêmement important dans ma vie, quoi. C'est-à-dire, j'avais un copain qui était très, très déconneur, indiscipliné aussi, qui était dans le même lycée que moi, qui s'appelait Olive, et qui était quasiment mon voisin de palier. Enfin, disons que je voyais la porte-fenêtre depuis le balcon où j'habitais. Et donc, on était ensemble, et à un moment où je travaillais justement, pendant l'été, pour m'acheter une guitare, je travaillais aux Souffrances à la gare des Batignolles, à la SNCF. Ce qui explique pourquoi on entend le ri-tchouk-tchouk du train des Batignolles. Donc ça, c'est vraiment toi. Cette phrase vient de moi en train de travailler aussi, je pense. Et après, j'étais dans une période un peu... donc je supportais pas trop ce travail, donc j'ai fait la grève tout seul, mais ça n'a pas été très bien pris à la SNCF. Et je me souviens, je suis dans un festival de musique pop progressive, et autour d'un feu, et je vois mon copain Olive, et qui me dit, j'ai un ami qui s'appelle François, et ses parents vont avoir un appartement à Paris, le papa ne viendra que tous les 15 jours, et on cherche quelqu'un pour habiter avec nous, et ça a été, je pense, le filin qu'on m'a tendu dans cette montée aride dans laquelle j'étais, et voilà, j'ai rencontré François qui était très très un spécialiste de la poésie du XXe siècle et en fait qui aimait beaucoup ce que j'écrivais. Et sa famille m'a pris dans les bras et son père était un poète et un publicitaire. C'est lui qui avait monté La Cantatrice Chauve à Paris, une pièce qui joue toujours dans le même théâtre depuis donc 50 ans, 60 ans. Et j'ai trouvé une deuxième famille grâce à François. Et donc avec Olive, on faisait la manche dans la rue et François, il ne jouait d'aucun instrument, donc il passait le chapeau. Et bien, ça, c'était les débuts d'un manager, en fait. C'est-à-dire que le manager passe le chapeau.
Il est devenu manager de téléphone. Et,
il est devenu voilà. Manager de téléphone. Et pour la principale raison, c'est notre ami Samy, 2 ou 3 ans avant qu'on puisse l'appeler manager. Il disait, non, je suis votre ami. Mais en fait, quand on jouait sur scène, quand les gens venaient, c'était le seul qui était dans les loges. Donc, il les prenait les numéros de téléphone et tout ça. Et on a commencé à, voilà, tous ensemble faire des plans sur la comète et à monter des stratégies pour pouvoir jouer le plus possible. Et François est devenu, par la nature des choses, un manager, alors que c'était plutôt un routard. Il avait les cheveux très longs, lui revenait de voyage en Angleterre. On avait tous un peu, Olive et François avaient quitté le lycée pour faire de l'autostop. Quoi. Mais c'était, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, évidemment.
Donc il vient de publier un livre qui s'appelle Rappel, mémoire d'un manager, où il parle de téléphone, évidemment. Donc vous venez de nous expliquer pourquoi et comment, de Serge Gainsbourg, de Marianne Faithfull avec qui il a partagé sa vie et une partie de la vie, et puis Les Insus, évidemment, qui sont une époque plus récente.
Gainsbourg a été très, très important pour moi aussi. Il m'a beaucoup éduqué. Il me donnait des... Je passais des... Je vois 48 heures chez lui et il me faisait écouter plein de disques. Et il montait sur le canapé, il me faisait écouter du Stravinsky. Il m'a acheté un casque audio très, 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 très bon, qu'il est allé acheter lui-même. Il m'a dit, reste là, je reviens. Alors qu'il était chez lui, il a pris un taxi, il est allé m'acheter un casque. Et il montait sur le canapé et il faisait le chef d'orchestre de Stravinsky pour que j'entende tous les instruments. C'était incroyable. C'est d'ailleurs une des premières personnes que j'ai vues quand téléphone s'est séparé. Et il m'a dit, il a fait une drôle de tête. Il m'a servi un pastis, enfin, c'était pas vraiment des pastis,
C'était des 102.
Plus que ça même.
Un double 51.
Oui, c'était un grand verre de pastis pur avec un tout petit peu d'eau. Et il m'a dit, prends des bons musiciens, à chaque fois fais gaffe. C'était marrant.
Christophe André, qui est-ce? Vous en parlez?
Christophe André, ben, je le connais pas, mais j'aimerais bien le rencontrer. Parce que c'est un médecin psychologue et qui s'est mis à très fort à la méditation. Donc voilà, j'ai lu pas mal de ses bouquins, mais ce qui me plaît le plus et qui m'inspire le plus, c'est son débit de parole quand il parle. Et ça m'évoque beaucoup. Ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est-à-dire méditer, se calmer, être en paix avec lui-même. Et il a un très très beau flot de paroles, c'est-à-dire que ça se déroule sans hésitation, avec une infinie tendresse. Voilà, et c'est quelqu'un qui, en France, et en tout cas, essaye de montrer que cette chose peut avoir un côté... scientifique aussi, quoi, que ce n'est pas que de la mystique hindoue. Donc je l'aime beaucoup, quoi. Mais enfin bon, j'aime beaucoup Mathieu Ricard aussi. Enfin d'ailleurs, ils font souvent des rencontres ensemble. Voilà, mais je suis un peu comme à l'école, c'est-à-dire que je ne suis pas très très discipliné pour ces choses-là non plus. J'ai pas trop changé de ce côté-là, mais je crois que ça fait partie du jeu.
Mais ce que vous venez de dire, c'est un peu aussi le climat de votre double album Refuge. Ce que vous venez d'expliquer,
à propos de
Christophe André, Mathieu Ricard, et une sorte de bienveillance tibétaine aussi. Va où ton cœur te dit.
Oui, alors c'est vrai que quelquefois quand je fréquente ces milieux-là où des gens me disent mais ça fait longtemps que tu es là-dedans et je regarde mes chansons il y a longtemps on voit à l'époque de Téléphone une chanson qui s'appelle Le silence dans la tête qui date d'avant Téléphone, elle a été sur le troisième album de Téléphone, de regarder la vie passer. Le silence dans la tête, ça correspond tout à fait. Quand je relis cette chanson, je me dis, mais c'est vrai, j'étais déjà comme ça. Et après, il y a eu d'autres chansons comme Voyager en soi-même.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder comme ça la vie passer assis à la terrasse d'un café ou en marchant tout seul dans ton quartier. Non. Le silence dans la tête et le bruit au dehors, au dehors.
En fait, je crois que j'ai toujours eu cette petite partie méditative, un peu mystique, agnostique aussi en moi, quoi. Et c'est vrai que... Et là, on peut peut-être y voir un rapport avec mon père, qui, parce que j'ai retrouvé évidemment pas mal de ses écrits et de ses dessins, et qui, avant la guerre, était un peu... un pacifiste et qui était bon, je crois qu'il était capable de lire le grec ancien. Il était fou de philosophie grecque, donc le stoïcisme et des choses comme ça ont des rapports à ça, quoi. On m'a déjà dit aussi que Danse les ombres du monde avait un rapport avec le mythe de la caverne de Platon, mais est-ce que dans toutes ces choses qui paraissent être le destin et tout ça, ou même les choses un peu inexplicables, je pense qu'il y a toujours le pas qu'on fait soi-même, c'est comme si on traversait un pont et la chose qui arrive vers vous. Et en fait, on se dit, cette rencontre était prévue, mais c'est dû à un mouvement de soi-même et évidemment, il y a une publicité en ce moment qui dit, on habite tous le même monde et on le voit, mais on le voit pas de la même manière. Et c'est vrai qu'on va tous un peu vers les choses qu'on a au fond de soi, quoi. Quand on attend un bébé, on voit que des landaus dans la rue. Quand on veut acheter une voiture, on voit que des voitures de cette marque. Si vous voulez que je vous dise.
Quand on regarde les titres, quelques-uns des titres de votre double album, il y a les temps sont durs, s'en sortir, ne m'enferme pas. C'est ce qu'on vit.
Oui, c'est que voilà. Alors ça, c'est très très curieux aussi.
Ouais, c'est étonnant.
C'est Jacques Higelin qui me disait, on est des guetteurs. c'est vrai que en fréquentant Houellebecq, je m'en suis aperçu aussi, mais parce que lui, il est obligé de. C'est un écrivain assez réaliste, mais nous, les chanteurs, alors il y a un peu de poésie dans ce qu'on fait. Enfin, il y en a pas mal même, mais j'aime pas trop ce mot-là parce que j'aime pas qu'on mette ça en avant. C'est ce qui arrive après, par la magie des choses. Mais c'est vrai que je me mets souvent à la terrasse du café en bas que vous connaissez, je pense, et je regarde les gens passer dans la rue et je me suis aperçu que, à la manière dont ils tiennent leur torse ou même dont ils remuent leurs fesses quand ils marchent, on peut presque voir l'état du monde. Donc là, en ce moment, je peux vous dire qu'ils sont bien courbés. Souvent la nuque qui fait un angle droit pour regarder leur téléphone portable et avec un peu de tristesse quand arrive le couvre-feu. C'est vrai que on mélange des éléments sans s'en apercevoir qui donnent des visions de ce qui va se passer. C'est pas valable que pour la musique. Hein. La musique, c'est sûrement. Bon, comme ça passe par l'air, la musique, c'est un des premiers arts qu'on entend parce que c'est un oiseau qui vole. Mais Jean-Baptiste Mondino aussi, avec qui je suis très ami, me dit dans la mode, on voit aussi, quoi, on voit. C'est incroyable, par exemple, sur le commerce internet, les premières choses qui ont commercé, en général, c'est le porno, enfin avec le cinéma aussi, et la musique. La musique, c'est les premières choses qu'on s'est mis à échanger sur internet. C'est assez curieux. Et avant la Révolution française, la première chose que les bourgeois ont fait pour dire on est les égaux des aristocrates, on en a marre de cette domination, c'est de construire des petits théâtres et des petits opéras minus à Paris pour avoir leurs opéras et leurs pièces de théâtre et que ce soit plus que les rois et les nobles qui les aient. C'est assez curieux comme on peut voir des mouvements sociétaux plus que politiques dans les arts. Avant qu'ils arrivent réellement dans la société économique. Et voilà, c'est comme ça.
Vous avez été opéré du cœur il y a quelque temps, vous en êtes bien remis. Vous avez auparavant, bien avant, accompagné votre père à la fin de sa vie au sein du monde hospitalier. On parle beaucoup du monde du personnel hospitalier aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que le personnel hospitalier, ce sont aussi des icônes ?
Ce sont des gens qui connaissent bien la vie, parce qu'ils connaissent la mort. Et voilà, je pense que oui, quand on est dans les hôpitaux, on n'a plus le costume qu'on met sur scène, la scène de la rue. Donc, regarde mes chaussures, t'as vu mon costume, t'as vu ma femme, t'as vu ma maison, t'as vu mon métier. Donc on se retrouve un peu, c'est les prémices de ce qu'on va penser en mourant, quoi. Dire, tiens, mon dernier costume n'aura pas de poche. Et oui, ces gens-là connaissent ça. Alors il y a des moments, un regard, une caresse sur la main, dans la douleur, ça fait, c'est des moments très qui prennent une importance incroyable, mais à cause de la situation. Et c'est vrai que, par la force des choses, on se retrouve tous égaux dans notre souffrance, avec ces gens qui nous maternent un peu. Donc j'ai une énorme admiration, et aussi j'adore quelquefois les éclats de rire dans les hôpitaux, ou quand je faisais des concerts sur le net pendant le confinement, la joie quand des infirmières m'envoyaient, on fait une pause et on te regarde en train de jouer. Oh, j'avais l'impression de communiquer avec ce monde. Oui, je trouve que voilà. Mais j'ai eu la même chose aussi. J'avais deux très jolies filles et je voulais faire graver une petite plaque pour la tombe de mon père où il y avait marqué sous-préfet, peintre et poète. Et donc, je vais aux pompes funèbres pour faire graver la petite plaque. Et il y avait deux très jeunes filles et jolies filles. Et c'était pendant l'été. Je dis, vous travaillez là pour les vacances. Et la jolie jeune fille se dit, non, en fait, moi, c'est le rêve de ma vie de travailler aux pompes funèbres parce que je crois que c'est là où les gens ont le plus besoin de moi. Eh ben, ça m'a tiré les larmes, cette phrase. C'était tellement de voir cette vie si, si belle s'occuper des gens perdus et tristes quand on perd un de ses proches. Voilà, c'est des moments qu'on n'oublie jamais. Hein. D'ailleurs, cet album Rock Éclair que j'ai fait un peu... c'était un peu... Je suis sorti des profils en disant « Je peux appeler mon album comme vous ?» C'était un peu con. Du coup, tout le personnel de Rock Éclair est venu au concert. Enfin, c'était très bizarre et oui, c'était une espèce de, bon, j'ai tendance à éclater de rire aux pompes funèbres comme je viens de le faire à l'instant. C'est ma manière de défier la tristesse, sûrement. Et, c'est des moments assez curieux. J'appelle ça les coulisses de la vie, mais on devrait plus avoir ça en tête tout le temps. Ça nous rabattrait notre caquet.
Merci beaucoup, Jean-Louis.
Merci.
Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Les seuls et là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros sur les braises, il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort,
un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.